en début de ces moments, des merveilleux chants. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Car Dieu nous aime. Rien n'est secret, tout un programme de vie que Jésus, cet après-midi, a en réserve pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais, au travers de ces quelques instants, eh bien, vous montrer comment une femme de l'Écriture, tout particulièrement, a vécu ces choses. Et à un moment donné dans sa vie, eh bien, le pouvoir de Christ est venu briser le pouvoir du péché. Et comment le Seigneur, connaissant les besoins les plus secrets de son cœur, a su venir y répondre. On va lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, un récit bien connu pour les lecteurs de la Bible. Les Actes des Apôtres, au chapitre 16, nous lisons à partir du verset 11, quelques versets tirés là de l'Écriture, Actes, au chapitre 16 et le verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Nous arrêtons là, eh bien, cette lecture cet après-midi. Et j'aimerais, pendant quelques instants, vous amener à faire avec moi un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps en ce que on revient à quelques 2000 ans en arrière. On est dans cette partie du monde que l'on appelle l'Asie mineure. Paul, accompagné de quelques collègues, s'y sont rendus. La Bible dit, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Et Paul avait à cœur, eh bien, d'aller à l'instar de son maître, de lieu en lieu, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Son désir, c'était que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ainsi ils soient sauvés. Et alors, au lieu d'être, comme les religieux le font, assis quelque part, attendant que les gens viennent à lui, Paul s'est rendu dans cette partie du monde où l'Évangile n'avait point encore été annoncé et la Bible nous dit qu'il avait à cœur d'y prêcher le Christ. Et alors qu'il avait cette ambition spirituelle, une ambition saine, la Bible nous dit que Dieu va l'en empêcher. C'est étrange. Il avait envie d'amener des hommes et des femmes au salut. La Bible nous dit que Dieu va l'en empêcher. Il s'est rendu dans la Mysie, dans la Phrygie, dans la Galatie, à chaque fois, parce que Paul était un homme de prière, il se tient devant Dieu. « Seigneur, est-ce que tu veux que j'annonce ta parole ici ?» Et à chaque fois, au lieu d'un feu vert, Dieu va lui donner un feu rouge. Et un soir, alors que Paul dormait, son esprit veillait, son esprit était en prière. Dieu se révèle à lui, Dieu lui parle, par, eh bien, un songe, une vision. Il voit un homme, un Macédonien, qui lui apparaît là en songe et qui lui dit, « Passe en Macédoine, Paul, et secours-nous. » Et Paul, qui était un homme sensible à la voix de Dieu, il comprend, Dieu ne le voulait pas, ni dans la Phrygie, ni dans la Galatie, ni dans la Mysie, ni dans la Bithynie. Il se lève, il s'embarque aussitôt, et voilà qu'il part pour la Grèce antique. Il arrive dans le pays de la Macédoine, et la Bible nous dit, étant arrivé dans le pays de la Macédoine, il se renseigne, eh bien, toujours poussé par ce désir d'y prêcher le Christ, où il y a un lieu où il pourra annoncer l'Évangile. Et la Bible nous dit qu'on lui indique un endroit dans la ville de Philippe, en dehors plus exactement de la ville, hors des portes de la ville, un endroit près d'une rivière. Quelques femmes se rassemblaient pour prier. Et ces femmes qui se rassemblaient pour prier, écoutez bien, ne le faisaient pas parce que c'était des gens mystiques. Ces femmes qui se rassemblaient pour prier ne le faisaient pas parce que c'était des gens un petit peu illuminés. Mais ces femmes se rassemblaient au bord de cette rivière pour prier parce qu'il y avait dans le cœur une véritable soif des choses de Dieu. La Bible dit, eh bien, elles se tenaient là, à l'écart, loin du brouhaha, des brouhahas de la ville, loin de toute activité. Elles s'étaient mises à l'écart, elles cherchaient Dieu, elles priaient le Seigneur. Il y avait une soif, la soif d'une rencontre avec Dieu. La soif, nous le verrons, de vivre quelque chose d'intense, quelque chose de fort, quelque chose qui allait bouleverser leur existence, eh bien, elles se sont mises donc à l'écart afin de prier Dieu. Et voyez-vous, j'aimerais dire cet après-midi, il y a dans le cœur de l'homme effectivement toutes sortes de formes de soif. Il y a, eh bien, chez certains individus, la soif tout simplement de la réussite matérielle, la réussite professionnelle, la réussite sur le plan pécuniaire. Il y a des gens, ils ne vivent que pour cela, eh bien, réussir à tout prix. Et pour réussir, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à bousculer les frontières des valeurs. Ils sont prêts à piétiner l'un, piétiner l'autre. D'ailleurs, un jour, quelqu'un disait, « Eh bien, vous savez, l'essentiel, c'est de réussir, peu importe les moyens que l'on utilise. » Et certains, à force de bousculer l'un, piétiner l'autre, écraser l'autre, ils finissent eux-mêmes, à un moment donné, par recevoir, eh bien, les effets, les contre-effets de leur philosophie. Et que de personnes animées par cette ambition de réussir ont donné l'impression d'avoir réussi. Mais en fait, ils ont tout perdu. La santé, la famille, quand quelquefois ce ne sont pas des choses encore, eh bien, plus graves, ils ont perdu leur âme, ils ont perdu leur salut. On peut être habité par la soif de la réussite. Je dirais que on peut être aussi habité par une autre forme de soif. C'est la soif du pouvoir. Et vous le savez, comme moi, eh bien, il y a des gens que l'on appelle des manipulateurs, qui sont très forts. Eh bien, dans certaines façons de procéder, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les bas instincts de la foule, ils les montent en épingle, et puis ils soulèvent la foule. et ils en font un tremplin pour atteindre leur objectif. L'essentiel, c'est d'avoir le pouvoir. Mais s'il y a ces ambitions que je décris ici, qui sont, disons-le, malsaines, il y a, eh bien, dans le cœur de l'homme aussi, une autre forme de soif. La soif du bonheur. La soif de connaître la vraie paix. La soif de la vérité. La soif de connaître le pardon de ses péchés. La soif de vivre une expérience bouleversante avec Dieu. La soif d'avoir une vie transformée. Et vous savez, cette soif-là, elle ne vient jamais de nous. Elle ne vient jamais de nos ambitions personnelles. J'ai relevé un texte dans l'Écriture, la soif de connaître Dieu, la soif de vivre des choses fortes avec le Seigneur. Le prophète Amos dira au chapitre 8 et le verset 11, il est dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim et la soif dans le pays. Non pas la faim du pain ou la soif de l'eau, mais j'enverrai la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » Et quand cette soif suscitée par Dieu naît dans le cœur, naît dans l'âme, alors comme Lydie, eh bien, on sent le besoin, le désir de se mettre en quête de Dieu. On sent le besoin, le désir de lire la Bible, de prier, de venir à des réunions comme celle-ci, afin d'entendre le bon conseil de Dieu, afin d'entendre la voix du Saint-Esprit, afin de recevoir les conseils de Dieu, les directives de Dieu, réussir, mais pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie avec Dieu. Je dis cela cet après-midi parce qu'il y a peut-être des amis qui sont là au milieu de nous. Et ce qui vous motive, amis, c'est cette soif spirituelle. J'aime à croire le fait que nous soyons venus ici cet après-midi, ce n'est pas parce que, au fond, dehors, il fait gris, il pleut, on ne sait pas trop comment occuper son temps, son programme, alors on s'est dit, mais, eh bien, allons tuer un peu le temps en assistant à une réunion. J'aime à croire que ce n'est pas cela le mobile qui vous a poussé à venir ici. J'aime à croire, ce n'est pas simplement pour répondre poliment à une invitation. Mais j'aime à croire que si vous êtes ici, amis, c'est parce qu'il y a une réelle soif dans le cœur. Vous avez soif de connaître le Dieu vivant et vrai. Job disait en son temps, « Si je savais où le trouver. » Et peut-être que cet après-midi, certainement cet après-midi, si vous êtes venu dans ce lieu, c'est parce qu'il y a une telle soif qui vous anime. Alors, si tel était le cas, j'aimerais vous dire, vous avez bien fait de venir assister à ces moments. Non pas vivre une réunion pour une réunion, non pas venir écouter un sermon, un message tiré de la Bible, tout simplement. Mais vous avez bien fait de venir, parce que la Bible dit ceci. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus dira, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et parce que Dieu est là, alors quelle que soit la soif qui anime notre cœur, il est capable d'y répondre, puisqu'il y a 2000 ans déjà, c'est lui qui a dit, « Eh bien, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi, qu'il boive. Car, dira le Seigneur, celui qui vient boire de l'eau que je lui donnerai, des sources d'eau vive jailliront de son sein, eh bien, jusque dans la vie éternelle. » Tu as besoin cet après-midi d'être désaltéré. Tu as besoin, eh bien, que ta soif soit ainsi satisfaite. Jésus est au milieu de nous. Tout à l'heure, on va avoir un moment de prière. Puisses-tu mettre ces moments de prière à profit? Ainsi, comme Lydie l'a fait, elle a élevé sa voix, elle a prié, elle a crié dans la direction de Dieu. Dieu a entendu, Dieu a répondu, Dieu a comblé son cœur. Tout à l'heure, dans ces moments de prière que nous allons avoir, puisses-tu élever ton cœur et ta voix, et ainsi en te tournant vers le Dieu vivant et vrai, voir le Seigneur se tourner vers toi, remplir ton cœur, remplir ton âme et satisfaire ton être, eh bien, tout entier. En tout cas, parmi les femmes qui étaient là, au bord de cette rivière, en train de prier, la Bible nous dit qu'il y en avait une. Son nom, c'était Lydie. La Bible nous dit que c'était une marchande de pourpre. Et elle avait dans son cœur, je le répète et j'insiste, cette grande soif de voir Dieu se révéler dans son cœur et dans sa vie. Ce qui est étrange, c'est que la Bible dit qu'il y avait parmi ces femmes, Lydie, une marchande de pourpre. Elle avait soif dans le cœur de vivre la révélation de Dieu, mais rien ne laissait paraître qu'il y avait une telle soif spirituelle chez elle. Tout d'abord, la Bible nous dit, dans, eh bien, ces simples précisions, l'Écriture nous dit, c'était une marchande de pourpre. Une femme, en d'autres mots, qui sur le plan pécuniaire, sur le plan matériel, était à l'aise, vivait dans le confort, vivait dans l'abondance. Elle avait, en fait, tout ce qu'il fallait. Elle n'était pas dans la maladie. Elle n'avait pas de problème particulier. Ce n'était pas une femme qui vivait, eh bien, une épreuve douloureuse. Je dis cela parce que quelquefois, vous savez, on a fait croire, eh bien, pour avoir soif de Dieu, il faut être dans le besoin. Souvent, on a fait croire, pour avoir soif de Dieu, il faut que l'on vive des expériences difficiles. On soit dans des situations inextricables. Quelque part, c'est vrai. Eh bien, quand l'homme baisse les bras, quand il capitule, Dieu a l'opportunité de se révéler. Mais ce n'est pas parce que je suis dans le besoin que j'ai soif de Dieu. Cette femme, ce n'est pas, eh bien, le fait d'être dans le besoin qui a fait qu'elle avait soif. Je crois que tout simplement, eh bien, comme beaucoup d'hommes et de femmes, elle a pris conscience, elle était riche. Elle a pris conscience que sur le plan matériel, elle avait tout ce qu'un homme, une femme pouvait désirer, avoir, posséder. Mais voilà. Malgré tout ce qu'elle avait, elle n'était pas heureuse pour autant. Elle n'avait pas le bonheur pour autant. Elle avait soif de Dieu parce qu'elle a pris conscience. Elle était riche. Mais vous savez, un écrivain, Oscar Wilde, disait aucun homme ne serait assez riche pour pouvoir se racheter de sa vaine manière de vivre. Et cette femme, à un moment donné, a dû prendre conscience. Je suis riche, avec mon argent, je peux tout m'offrir, je peux tout acheter, je peux tout me payer. Et s'il y a une chose que je ne peux pas m'offrir, eh bien c'est le rachat de mon âme. L'apôtre Pierre dira, ce n'est point par de l'or, ce n'est point par, eh bien, des richesses d'ici-bas que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Mais il dira, c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, qui s'est offert pour nous comme un sacrifice auprès du Dieu vivant et vrai. Et cette femme, peut-être sous le poids de son péché, eh bien la soif est née dans son cœur, la soif d'être pardonnée, la soif d'être rachetée, la soif d'être réconcilié avec Dieu, la soif de connaître le bonheur que d'être sauvé et transformé par le Seigneur. Et cette soif l'animait parce que tout son argent n'avait jamais pu lui procurer, eh bien, ce bonheur qu'offre l'Évangile de Jésus-Christ. Et puis, ce que je retiens dans ce texte, la Bible nous dit qu'il y avait là parmi ces femmes une marchande de pourpre, Lydie. Il est dit une femme craignant Dieu. Elle avait soif de Dieu. Et pourtant, la Bible me dit, c'était une femme craignant Dieu. Traduisez par là, c'était une femme qui était profondément croyante. Tellement croyante que, vous savez qu'un craignant Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un d'origine grecque qui, au fond, s'est converti au judaïsme. Cette femme, elle était profondément croyante. Elle a cru dans sa religion, elle allait trouver les ingrédients nécessaires pour combler le vide de son cœur, pour combler le vide de son âme. Elle a sondé, eh bien, les profondeurs de sa religion. Et sa religion ne lui a rien apporté. Elle entend parler du judaïsme, du Dieu de Moïse, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Elle se dit, peut-être que la foi, c'est une affaire d'idéologie. On va changer d'idéologie. On va changer de religion. On va changer de philosophie. Elle s'est attachée au judaïsme. Et la Bible nous dit, là non plus, elle n'a pas trouvé son compte. Parce que je dirais cet après-midi, vous savez, ce qui satisfait le cœur d'un homme, ce n'est pas la religion. La religion nous parle de Dieu. Mais la religion est incapable de nous mettre en relation avec Dieu. La religion dit à l'homme, tu es un pécheur, tu es un misérable, tu es perdu. La religion plonge l'homme dans le désarroi, dans le désespoir. Mais la religion est incapable de tendre la plus petite main pour aider cet homme, cette femme à se redresser, relever la tête et retrouver sa dignité. Quelqu'un disait un jour, la religion c'est comme un fil à plomb qui vient montrer à l'homme qu'il a été construit de travers, qu'il a été monté de travers, il a poussé de travers. Mais la religion est incapable de le redresser. Et peut-être que cette femme Lydie, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, peut-être que la pensée de l'éternité s'est éveillée en elle. Elle a pris conscience de l'existence d'un Dieu. Elle a pris conscience de son état, eh bien, de péché. Et cette femme n'ayant pas trouvé dans sa religion ce qu'il fallait, n'ayant pas trouvé, eh bien, dans la religion juive, ce qu'il lui fallait. Voyez-vous, elle était là au bord de cette rivière, elle soupirait. Elle priait Dieu. Elle disait, mais Seigneur, si tu es réel, si ta présence est réelle, alors montre-toi à moi que mon péché soit enlevé, que mon cœur soit transformé. Que ma vie soit régénérée. Seigneur, eh bien, que je passe par une expérience par laquelle, eh bien, le poids de mon péché sera enlevé. La religion, ça n'a jamais sauvé personne. Vous savez, chaque fois, quand l'occasion m'est donnée, j'aime à parler de ce que l'on a vécu dans notre famille. J'avais 5 ans. Et le souvenir que j'ai, un enfant de 5 ans, j'ai toujours été marqué par la piété de ma mère, une femme extrêmement pieuse. Et tous les matins que Dieu faisait dans la semaine, elle se levait, je ne sais plus à quelle heure, 4h30, 5h du matin, il y avait des offices religieux tous les jours. Et tous les jours, ma mère allait à ces offices religieux. Tous les jours, elle allait prier. Tous les jours, elle allait réciter, eh bien, ce que la religion lui avait inculqué. Mon père, eh bien, des gens qu'il connaissait lui avaient offert une Bible. Il lisait la Bible, mon père, mais il n'y comprenait rien. Il n'y comprenait rien parce que je n'ai jamais vu mon père vivre les choses de l'Écriture. Et puis, j'avais donc 5 ans. La sœur de ma mère est tombée gravement malade. Malade au point où c'était une femme, eh bien, qui s'est repliée sur elle-même. Les volets ne s'ouvraient jamais. Elle était alitée. Elle ne s'alimentait presque jamais. C'était, à un moment donné, presque un cadavre. Et à cette époque-là, le missionnaire Cizeron est arrivé dans l'océan Indien. Il a commencé, eh bien, une mission d'évangélisation à l'île de la Réunion. Quelque temps après, il arrivait à l'île Maurice et la cousine de ma mère, qui était une femme très pieuse aussi, d'ailleurs, toutes les deux fréquentaient régulièrement les lieux religieux. C'est la cousine de ma mère qui, la première, a été à une de ces conférences qui se tenait en plein air. Et un soir, en revenant d'une de ces réunions, elle est passée à la maison. Elle a dit à ma mère, écoute, tu devrais venir avec moi demain soir. pour aller où? Il y a un homme, eh bien, il a une espèce de banderole. C'est écrit « Mission, salut et guérison ». J'ai jamais entendu prêcher le Christ comme cet homme prêche le Christ. Tu devrais venir. Le lendemain soir, ma mère l'a accompagné. En rentrant après cette réunion, ma mère a dit à mon père, « Tu dois venir avec moi demain soir. » Mon père l'a accompagné le surlendemain. Vous savez, ça vous marque. Vous êtes un enfant de 5 ans. De voir, eh bien, la deuxième soirée, le papa, la maman sont allés assister à ces réunions. Mon père lisait la Bible, mais à la maison, il ne se passait jamais rien. Ma mère allait aux offices religieux, mais à la maison, il ne se passait jamais rien. Et ce soir-là, ils sont rentrés tous les deux et chantaient un vieux cantique. « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » Et ça m'a marqué. Cette tante qui était malade, alitée, presque à l'état d'un cadavre. Ils ont dit aux missionnaires, il faudrait que vous veniez prier pour ce membre de la famille. Le missionnaire est venu, accompagné d'un autre missionnaire. Ils sont rentrés simplement dans le lieu où était couchée ma tante. Ils ont prié en lui imposant les mains. Et après avoir prié, ils sont partis. On avait l'impression que rien ne se passait. Sauf que dans les heures qui ont suivi, elle s'est levée. Elle a dit, j'ai faim. On lui a fait à manger. Le lendemain matin, elle a ouvert ses volets. Et puis, un ou deux jours après, elle a accompagné la famille aux réunions. Et je peux vous dire, ça a changé notre vie. Ça a changé notre existence. À la maison, mon père ne faisait plus que lire la Bible. Et on se tenait ensemble, on chantait des cantiques, on priait le Seigneur, on lisait la Bible. Et ça, dans le cœur d'un enfant, ça vous marque. Ça vous marque. Cette femme, elle était religieuse, elle était croyante, et sa religion ne lui a rien apporté. Et voyez-vous, alors qu'elle était là en train de prier au bord de cette rivière, peut-être avait-elle l'impression de prier dans le vide, dans le néant, que sa voix s'égarait au milieu des astres, eh bien, au-dessus de sa tête. Et puis, la Bible nous dit, sa prière va parvenir jusqu'à Dieu. Ce que j'aimerais dire, que l'on ne prie jamais en vain. J'aimerais dire, on ne s'adresse jamais à Dieu en vain. Et cette femme, alors qu'elle était là en train de prier, elle ne savait pas si à un moment donné, cette prière allait aboutir. Bien ce jour-là, elle a vu deux hommes venir jusqu'à elle. Paul et Silas. C'était la réponse à sa prière. Deux hommes qui vont venir avec un message extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait part à la vie éternelle. Et Paul de dire à ses femmes, Dieu vous a vu, Dieu vous a tant aimé, eh bien, il vous a vu, Dieu vous a tant aimé, il a prêté une oreille attentive à vos prières, Dieu vous a tant aimé. Il nous a envoyés comme ses messagers, afin de vous faire part des choses que vous aimeriez vivre et que Dieu a le désir maintenant de rendre accessible et possible. Et après avoir prêché ce Dieu qui nous aime, eh bien, Paul va prêcher l'exigence de l'Évangile. Parce qu'au fond, un Dieu qui nous aime, mais ça, tout le monde le dit. C'est vrai, c'est pas vrai? Eh oui. Aller pousser les portes de n'importe quel lieu religieux, parler avec un religieux, et tous vous diront, Dieu nous aime. Mais ce que quelquefois on oublie de nous dire, il nous aime, mais son amour et sa bonté veulent nous pousser à la repentance. Un Dieu qui nous aime et finalement qui ferme les yeux sur l'état de notre vie, notre situation, notre état de péché. Excusez-moi, mais c'est un Dieu cruel. C'est un Dieu cruel. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence, c'est le laisser-faire. Mais Dieu, lui, nous aime. Et parce qu'il nous aime, il met le doigt là où les choses ne vont pas. Alors Paul est venu dire à ces femmes, « Dieu vous a tant aimé, il vous a vu, il a entendu vos prières, il nous a envoyé afin de vous dire les choses essentielles à votre salut. » Et je m'imagine que Paul a dû parler à ces femmes de la repentance. Le besoin, voyez-vous, de ressentir cette tristesse selon Dieu dans le cœur. Seigneur, tu nous aimes, mais nous, dans notre ignorance, on ne le savait pas, on a mené notre vie comme bon nous semblait, nous t'avons offensé, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous sommes, eh bien, des ennemis des choses de Dieu. Paul a mis le doigt là où les choses n'allaient pas. Paul a parlé de la nécessité de se repentir. Paul a certainement fait allusion à ce que nous partagions hier avec les jeunes, lorsque Jésus va dire à un moment donné, « Aimer, ce n'est pas suffisant. » Tellement de gens qui aiment Dieu, mais qui un jour resteront, eh bien, dans la mort éternelle. Pour que nous voyions le royaume de Dieu, il faut plus qu'aimer. Il faut l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut, eh bien, après avoir expérimenté cette tristesse selon Dieu, il faut que tu permettes à ce Dieu miraculeux de venir opérer le plus grand des miracles dans ta vie. Il faut que tu permettes à ce Dieu miraculeux de venir opérer, eh bien, le plus puissant des miracles dans les vies. Il faut que tu permettes à Dieu de venir changer ton cœur, changer ton âme, changer tes sentiments, changer tes pensées. Tu as besoin que Dieu vienne, il prenne, non pas la pompe cardiaque, mais tu as besoin que Dieu prenne ton être intérieur et qu'ainsi il te transforme. Et vous savez, quand Dieu fait un tel travail chez nous, c'est formidable. Nous aimons à dire, il y a un avant Jésus, et puis il y a un après Jésus. Un avant Jésus, je l'aimais peut-être. Quelquefois, j'ai exprimé des regrets peut-être, mais j'ai toujours recommencé dans mes travers. Mais l'après avec Jésus, eh bien Jésus vient briser le pouvoir du péché. Jésus vient briser mes chaînes. Jésus vient me transformer. Il me donne le pouvoir de ne plus recommencer. Il me change. Il me transforme. Et Paul l'exprime au travers d'un verset de l'Écriture. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet après-midi, il y a peut-être quelqu'un qui aimerait vivre une vie nouvelle. Tu as le désir, mais tu n'en as pas le pouvoir. Tu as les désirs, tu as l'ambition, mais tu n'en as pas les moyens. Oh, nous l'avons chanté, j'aimerais le souligner encore. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Jésus. Et la force est en Jésus seul. En tout cas, cette femme qui priait, qui attendait une réponse, elle voit ces deux hommes venir, lui parler de l'amour de Dieu. Mais un Dieu, eh bien, qui dans son amour pour nous, va à l'essentiel, va droit au but. Et alors que Paul lui prêchait, lui parlait de ces choses importantes, la nouvelle naissance, c'est important, eh bien c'est vital, c'est un besoin impérieux. Je termine en disant, il y a une parole qui nous est précisée dans ce texte. Il est dit, elle écoutait, et puis il est dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive. Elle écoutait, mais elle écoutait avec ses oreilles physiques. Et Dieu va faire, eh bien, un miracle, mais un miracle invisible. La Bible nous dit que Dieu va intervenir là dans son cœur. Et Dieu va ouvrir non plus l'oreille physique pour qu'elle entende, mais Dieu va ouvrir ses oreilles spirituelles pour qu'elle soit attentive. Parce que quelquefois nous entendons, il y a beaucoup de choses que nous entendons, mais au fond, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous retenons? Et l'Évangile, c'est un message, voyez-vous, que nous ne devons pas nous contenter d'entendre. Et puis, aussitôt que la réunion se termine, on a déjà tout oublié. Non, voyez-vous, cet après-midi, après avoir entendu ces paroles, Dieu veut ouvrir votre cœur, afin, eh bien, que vous soyez rendus sensibles. Et cette parole, après avoir pénétré les oreilles physiques, elle descend dans le cœur. Elle vient vous toucher dans votre cœur. Dieu ne veut pas simplement changer, eh bien, notre cœur, nos sentiments, mais Dieu veut venir nous toucher dans notre cœur, dans nos sentiments. Parce que vous savez, disons-le, qu'est-ce qui caractérise l'Évangile? Eh bien, l'Évangile, c'est une affaire de cœur. Un jour, Dieu sur la croix déchiré, eh bien, sa poitrine, il nous a montré son cœur après nous avoir parlé un langage d'amour parce que ce langage nous était imperceptible. Dieu a déchiré ses entrailles. Il nous a montré son cœur en donnant son Fils, en le livrant à la mort. Et en retour, eh bien, ce qu'il attend. Il est dit dans le livre des Proverbes, « Mon Fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi, eh bien, tes sentiments. Donne-moi tes pensées. Je ne te demande pas grand-chose. Je te demande tout simplement de m'aimer. » La religion nous dit « fais ». La religion nous dit « fais des efforts ». La religion nous dit « fais des sacrifices ». Jésus, lui, nous dit « aime-moi ». Parce que j'aime à dire, voyez, si la foi rend tout possible, eh bien, l'amour rend tout facile. Et c'est bien une chose qui peut amener un homme, une femme, à abandonner son péché, quel que soit le prix que cela va lui coûter. S'il y a quelque chose qui peut amener un homme, une femme, à renoncer à sa misère, c'est l'amour qui naîtra dans son cœur pour le Seigneur. Alors cet après-midi, Dieu vient ouvrir les oreilles de notre cœur. Il désire, voyez-vous, que sa parole pénètre au plus profond de notre cœur, le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions. Il nous dit, mais regarde de quel amour je t'ai aimé. En retour, je ne te demande pas grand-chose. Je te demande tout simplement, aime-moi. Et ma prière cet après-midi, c'est que Dieu puisse avoir accès à notre cœur, à nos sentiments, à nos émotions. Et au travers de ces moments, bien-aimés, eh bien, simple que nous sommes en train de vivre, il y a une véritable action du Saint-Esprit dans un cœur. Quelqu'un, là où il est assis, pendant que nous allons prier dans quelques minutes, eh bien, se mette à aimer le Seigneur et à l'aimer tellement. Cet après-midi, vous renonciez à votre vaine manière de vivre, à votre péché, à vos iniquités. Vous tournez le dos à ces choses. Vous vous mettez à marcher avec le Seigneur, à le suivre. Lydie, eh bien, a permis à ce que Dieu ouvre son cœur. À partir de ce moment-là, tout a changé dans sa vie. Un jour nouveau a commencé, une vie nouvelle, une histoire nouvelle. Ma prière cet après-midi, c'est que pour quelqu'un au milieu de nous, une vie nouvelle commence. Alléluia. Alors Jésus est là, il a entendu nos prières, il a dirigé nos pas dans, eh bien, ces moments, dans ces instants. On va s'approcher de lui tout simplement. On va le prier, on va se recueillir, on va fermer les yeux. Lydie a entrepris une simple démarche, elle a prié, et c'est la prière qui a amené tout ce qui a suivi dans sa vie. On va prier le Seigneur ensemble.